Hello, hello à toutes et à tous et bienvenue sur les bonnes ondes du 107.5. Nous venons de prendre le direct, je pense que vous ne m'entendez pas encore très très bien. Voilà, bonsoir, bonsoir à vous. Aline, tu es là, tu es avec nous ce
Bonsoir,
soir?
bonsoir,
Oui, tu es
bonsoir,
là,
bonsoir, bonsoir. Ah,
super.
tu es sûr?
Oui.
Ok, ah oui, c'est
Vous êtes
bon,
là?
ok, mais oui.
Donc nous sommes dans les studios de Hardiwa, on va tester les micros en même temps qu'on prend le direct. Voilà, bienvenue à vous dans les studios pour ce feu de tout bois du jeudi 31 janvier 2019. Il est 19h20 et nous venons de prendre le direct. Nous sommes plusieurs dans les studios. Donc Aline, on t'a. Jean-Loup, est-ce que tu peux tester ton
Un,
micro?
deux,
Oui,
je
coucou.
suis là, ça marche.
Super. Et puis donc on a Silage qui est là aussi. Un, deux, attends, tu dois être ici, toi.
Un, deux, un, deux,
Coucou.
test.
Voilà, test encore.
Test, test, test.
Nickel. Bonsoir à vous.
Eh bien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Merci d'être là.
Eh oui, ça va bien. Merci.
Super. Voilà. Donc, du coup, je fais les réglages techniques en même temps que vous pouvez peut-être entamer quelque chose.
Eh bien, allez, entamade par un agenda. Voilà, un agenda un petit peu fourni parce qu'il y a une grosse manifestation à Valence samedi. C'est un appel à rassemblement pacifique de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, là, vraiment quelque chose d'important, hein, j'ai l'impression. Le rendez-vous, on va le dire tout de suite, c'est à 13h au rond-point sud, près du péage Valence-Sud. Et c'est pour porter encore et encore nos revendications et notre droit légitime à une existence plus digne et plus libre. Alors, est-ce que je peux lire l'appel qui a été fait, peut-être?
Ah oui.
Alors, depuis maintenant 2 mois, nous sommes nombreuses et nombreux à battre le pavé, à nous retrouver sur les ronds-points, à provoquer les dommages économiques à de grandes multinationales qui ne parlent que de la loi de l'argent, à déborder des cases assignées, à surprendre sans cesse le pouvoir par notre capacité à réinventer nos tactiques de lutte. En face, ils tentent de nous étouffer, de nous enterrer avec tout l'arsenal qu'ils ont à leur disposition. Face aux armes de la police, face à la justice, face à la machine de guerre médiatique, on ne fait pas le poids. Et il nous faut continuer de louvoyer entre les bombes et les flashballs, se rendre insaisissables, déborder leurs dispositifs, agir là où on ne nous attend pas. C'est donc pour cela que lors de la manifestation du 2 février, donc de samedi qui vient, nous invitons tous et toutes les gilets jaunes à venir mettre de la couleur et de la folie dans le défilé, que notre manifestation devienne carnavalesque, que nos visages se transforment en masques à plumes, que nos pas soient emportés par la fougue de la révolte et de la fête jusqu'à la place, et qu'à la place de leurs gaz lacrymaux, pardon, pleuvent des confettis, des paillettes, de la farine, parce qu'ils ne peuvent entamer notre joie et notre rage, parce qu'ils ne peuvent contenir la marée populaire et sauvage, parce qu'ils ne peuvent éteindre les lueurs jaunes qui brillent dans nos yeux. Il reste tant à faire, mais nous sommes en bon chemin. Et c'est signé, alors, quelques gilets jaunes de la Drôme et de l'Ardèche qui ont écrit cet appel. Et effectivement, c'est une invitation à venir déguiser, carnavalesque, à venir avec vos chansons aussi. Et pour la petite info d'Oise, eh bien, la chorale d'émeute sera présente à cette manif. Donc, révisez vos classiques, j'ai envie de dire, et révisez aussi vos chants de carnaval, car là, ça va dépoter. Et par rapport à cet appel, un communiqué aussi du laboratoire anarchiste de Valence, qui nous dit « Le laboratoire anarchiste sera inaccessible le samedi 2 février ». Donc le jour de la manifestation régionale, Jill et John, car les flics et les politiciens au pouvoir ont besoin de justifier leur existence et leurs dépenses, de se poser en gentil et indispensable protecteur des commerçants et des Valentinois. Donc c'est leur intérêt de dramatiser à outrance et de stigmatiser tout. Donc le marché de la place des Clercs, puisque c'est place des Clercs, hein, le laboratoire anarchiste, le marché n'aura pas lieu le samedi matin. Le centre-ville sera barricadé et des policiers municipaux font la tournée hors du centre-ville, qui est déjà une zone rouge avec filtrage à l'entrée, comme le jour de la visite de Macron. Ils font une tournée des commerçants en leur disant qu'il y a des fascistes qui vont venir à Valence le 2 février et qui vont s'en prendre plus particulièrement aux commerçants étrangers. Donc pour leur sécurité, il faut fermer ce jour-là. Mais le laboratoire anarchiste sera délocalisé, bah puisque c'est prévu, voilà, qu'il sera inaccessible. Il sera délocalisé le 2 février. Et pour avoir des renseignements sur où sera le laboratoire anarchiste le 2 février, donc qui sera dans un lieu accessible, eh bien, il faudra passer au laboratoire qui sera accessible aussi le vendredi, donc demain, entre 17h30 et 19h, à l'heure de permanence habituelle. Et là, vous aurez les infos sur où sera le laboratoire délocalisé ce samedi. Voilà pour les informations valentinoises.
Du coup, il y a peut-être à rajouter, je rajoute dans les rendez-vous, qu'il y a un rendez-vous covoiturage parce que donc, du coup, voilà, la manif partira à 13h. Il est quand même conseillé d'arriver avant, étant donné le dispositif policier qui est mis en place. Je veux bien faire un petit topo après là-dessus aussi. Mais il est conseillé d'arriver un peu plus tôt que 13h. Pour ceux qui peuvent arriver vraiment le matin, c'est chouette. Sinon, il y a un covoiturage qui est proposé de la gare de Die à 11h30, du rond-point de Saillant à 11h45 et de la gare de Cré à midi. Voilà, donc pour se rendre à cette folle manifestation régionale, cette marée populaire, colorée, carnavalesque, joyeuse, déterminée et insaisissable. Oui, parce qu'effectivement, c'est ce que titrait le Daubé dès mardi, on attend 6 000 à 10 000 personnes, dont 10% de casseurs. Une bonne manière de justifier le dispositif policier absolument gigantesque, puisque depuis 3 jours à Valence, ils scellent le mobilier urbain, ils scellent les pavés, pardon, ils enlèvent le mobilier urbain, ils ont donc fait le tour des boîtes aux lettres avec un arrêté préfectoral qui est absolument magique. Attention, c'est pour votre protection, messieurs, dames, surtout ne sortez pas dans la rue, alors bientôt on aura des couvre-feux. Ils ferment aussi, donc ça c'est bon à savoir, les péages nord et sud pour donc obliger les manifestants et les manifestantes à prendre les nationales. Il y aura des contrôles routiers absolument partout. Rappelons qu'il y a des personnes qui se sont déjà fait embarquer au Faisin la semaine dernière pour avoir eu des bonbonnes de gaz dans leur véhicule. C'est bien de faire attention à ce qu'on a dedans, parce que même une biellette de direction ou un gilet jaune, bien entendu, peut-être des couteaux, des petits opinels pour manger le saucisson, c'est danger. Le centre-ville donc du coup est entièrement bloqué. Il y a d'ailleurs le parcours qui a été déposé. Il faut annoncer que cette manifestation n'est pas déclarée à la préfecture, mais que le parcours a été déposé quand même à la préfecture. Donc on s'attend à être bien entouré. Il y a aussi l'arrivée du rallye Monte Carlo historique qui a été délocalisé du centre-ville au stade Pompidou. Bon, peut-être ils auraient pu l'annuler, mais non, ils l'ont juste décalé. Donc tu l'as dit, le marché du samedi matin place des Clercs qui est annulé. Donc il y a des gilets jaunes qui sont vendeurs au marché, qui sont très contents de pouvoir venir à la manif. Hein. L'appel du préfet à limiter un maximum tous les déplacements à Valence ce samedi 2 février. Alors, vous avez préparé vos masques ?
Ah ben, moi je serai maquillée. Hein.
Le clown sera là et en fait, pour la première fois, hein, c'est que pour l'instant, je donnais de l'énergie ailleurs et que là, il y a un tel engouement à faire ce carnaval. Je sais qu'il y a eu des préparations de banderoles carnavalesques aussi à droite à gauche. Ça va être super chouette. Et je pense que c'est nécessaire d'amener cette gaieté, cette beauté, cette légèreté, cette fête, ces festivités, pour contrebalancer ces appels terrorisants qui peuvent venir du gouvernement ou de la préfecture. Parce que ça fait peur aux gens, alors que ça devrait pas, ça a pas lieu d'être, quoi. Ce sont des manifestations avant tout pacifiques. J'avais eu l'information qu'il y avait eu une déclaration en préfecture pour la manif et qu'elle avait été refusée et du coup qu'ils avaient fait autrement. Alors quelqu'un d'assez sûr de lui me l'a certifié tout à l'heure. Moi je sais pas.
Okay.
Je l'ai pas. Mais dans tous les cas, effectivement, il y a un parcours qui est déposé et il y a une volonté que ce soit pacifique et en même temps ça va être gros, quoi. Ça va être très gros. Moi je veux pas me leurrer sur le fait que, puisque ça va être une grande et belle manif, il y aura des personnes qui vont s'inviter avec peut-être des intentions moins pacifiques, moins festives ou autrement festives. Néanmoins, normalement, les forces de l'ordre sont formées pour gérer cela. Et jusque-là, on a vu qu'ils ne s'occupaient pas trop de ce qu'ils appellent les casseurs, les pilleurs ou tout ça. Qui s'occupaient bien plus de choper des gilets jaunes, parfois, qui étaient totalement pacifistes. Donc,
c'est ce qui est arrivé cette semaine, la semaine dernière, à deux personnes. Là, moi, ça fait partie des choses dont je voulais parler. Il y a cet article qui est sorti aussi d'avocats qui ont été assez outrés de cette histoire. Si je le retrouve, c'est Arthur et Théo, voilà, qui ont été interpellés sans même avoir été présents à la manifestation avec les Gilets jaunes. Du coup, c'est un article du Monde. Mardi dernier, donc le 29, ils ont été jugés pour groupement en vue de la préparation de violence ou de dégradation. Donc il y a une centaine de personnes qui ont été arrêtées de façon préventive samedi dernier, donc un dossier parmi des centaines. Ces deux interpellés, alors pardon, c'était pas samedi dernier, c'était le 8 décembre. Bon, ça devait être c'était la journée noire du 8 décembre. C'était le 8 décembre et c'est un article qui est sorti cette semaine sur Le Monde. Et donc ce jour-là, alors que le quatrième acte de la mobilisation des Gilets jaunes doit commencer à 14h à Paris, on se souvient, il y avait énormément d'interpellations, le compteur battait son plein. Et il y avait quoi, 317 interpellation à 9h, 554 à 13h, c'était jusqu'à 1082 arrestations en fin de journée. C'était assez record. Et voilà, c'était vraiment, ça a été la grosse journée noire. Donc il y a Arthur T et Théo, donc je précise que les prénoms ont été changés, qui étaient à Paris à ce moment-là. Ils se sont fait contrôler sur la route et interpellés vers 9h du matin à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, donc aux abords de Paris. Parce qu'ils avaient un feu défaillant, voilà. Et les policiers leur ont demandé les papiers au conducteur avant de s'apercevoir que au pied du passager, donc d'un des deux jeunes, il y avait une bonbonne de peinture et une biellette de direction, une pièce de mécanique automobile qui ressemble à une barre de fer, effectivement, donc qu'on peut largement sans problème normalement avoir dans sa voiture. Et du coup, ils sont allés plus loin dans l'inspection et ils ont trouvé rien. Pas de gilet jaune, pas de masque, pas de gants, pas de lunettes de plongée, donc rien qui s'apparenterait à de la protection de manifestation, rien qui s'apparenterait à leur venue à la manifestation du jour. Et en gros, ils ont tous les deux dit qu'ils étaient partis de Rennes la veille pour se rendre à Lille. Ils se sont fait une escale à Paris et ils cherchaient une boulangerie. Et ils ont vraiment dit aux flics qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de se rendre à la manif. Et pourtant, ils sont passés en procès cette semaine et j'ai pas le rendu du procès sous les yeux, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un peu voilà, on se dit que allons à la manif samedi, que de toute façon quoi qu'il arrive ils pourront nous arrêter avec n'importe quoi, pour n'importe quel prétexte. Voilà,
la situation est un petit peu ubuesque maintenant. C'est vrai que les gens ont tous peur de tous les côtés, les gens ont peur de perdre ce qu'ils ont, les gens ont peur de se faire tuer pour rien, donc c'est assez marrant. Mais enfin, c'est marrant, c'est catastrophique, c'est vrai. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'aurais pas la possibilité d'aller à Valence ce samedi. C'est vrai que tous ceux qui peuvent y aller et manifester de manière pacifique, je crois que c'est incontournable et c'est vraiment important. Mais ceux qui ne peuvent pas y aller peuvent quand même contribuer. Moi, ce qui m'a le plus touché depuis le départ du mouvement des Gilets jaunes, et particulièrement ce qui s'est passé au rond-point de Die, c'est de voir toute cette nouvelle communication qui s'est établie de cœur à cœur entre les personnes qui venaient pour discuter de manière informelle avec tout le monde. Et c'est ça qui m'a le plus touché. Ce que je vois, c'est que maintenant, que le rond-point reste, que le rond-point ne reste pas, que la manifestation soit énorme ou non, le plus important, c'est ce qui se passe dans la rue maintenant, c'est que les gens parlent, et parlent de plus en plus de cœur à cœur. Il y a une communication qui se fait. Il est certain que ce système capitaliste doit changer. Il est arrivé à la fin. Moi, j'y ai cru comme beaucoup, et je l'ai déjà dit, hein. J'y ai cru au début parce que j'ai eu le même conditionnement que les autres. Mais c'est vrai que c'est pas possible. On peut pas avoir un système qui justifie les guerres, qui justifie les maladies, qui justifie la pauvreté dans le monde, qui justifie la destruction de la planète. C'est pas possible. Il faut vraiment construire un nouveau système humain. Donc on est obligé d'user de notre liberté de changer, notre comportement, de se taire et de parler quand on le veut, et puis de s'exprimer, mais surtout de changer son comportement. Son comportement d'achat et son comportement de communication par rapport aux autres.
Il y a peut-être certains de nos employeurs ou de nos gouverneurs ou de nos empereurs qui pourraient aussi changer leur comportement à leur tour.
Oui, mais ça, c'est impossible. C'est impossible. On peut pas demander à quelqu'un de changer. Le problème, c'est que c'est eux-mêmes qui vont changer, mais qui vont se rendre malades et qui vont s'autodétruire. Et on parle de la maladie de Macron, ça m'a fait un peu sourire. Je suis vraiment désolé pour lui. Mais moi, j'avais envie de dire la dernière fois, Macron, il faut l'aider. Comme Trump, ce sont des gens qui vont s'autodétruire avec un comportement pareil, c'est évident.
Ils sont en train de s'autodétruire, même actuellement.
Exactement.
C'est ça, mais le problème aussi, c'est que dans leur autodestruction, c'est un peu le syndrome d'Hitler, je dirais, qui finit, bon, effectivement, par se suicider et par faire sauter son bunker, mais après avoir envoyé tout le monde au front et après avoir détruit son pays et détruit son peuple aussi. Donc c'est vrai que si on peut leur éviter cette fin tragique et nous éviter aussi cette même fin tragique, ce serait que du bon, quoi.
Oui, mais c'est là qu'il faut voir qu'est-ce qui s'est passé justement avec Hitler. Les Allemands n'étaient pas des fous. Ils sont simplement laissés manipuler par la voix d'Hitler. Et ça, on en a déjà parlé ici. La manipulation par la voix, par les images subliminales, par les sons subliminaux, c'est même un brevet qui est détenu par les banques américaines de la manipulation mentale des gens par les sons subliminaux qui se retrouvent partout dans les réseaux sociaux et dans les films que l'on voit un peu partout. C'est ça qui nous perturbe. Comment se fait-il qu'autant de personnes aient voté pour Macron et qu'autant de personnes aient voté pour Trump, que les Israéliens continuent de voter pour Netanyahu? C'est pas possible. Ça ne tient pas debout. Et la seule raison, c'est que les gens se laissent manipuler. Et aujourd'hui, on le voit très très bien, les Chinois l'expliquent remarquablement bien, mais les Français scientifiques le démontrent aussi. Lorsque les gens vivent sur la voie, eh bien, ils sont dans une peur terrible de ne plus exister puisqu'ils n'existent que par leur avoir. C'est aussi simple que ça. Et donc, résultat, ils ont tous des maladies de reins et de vessie. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas médecin, tout ce que je dis n'a aucune valeur, etc. Ne venez pas me... Hein, etc. Mais ça, c'est une réalité. Et un riche, on ne peut pas dire un riche philanthrope. Ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Si les philanthropes, ils donnent. Quand on donne, on n'a pas. Si on garde, on donne une image de philanthrope. Ça, c'est important. Pour exister, ils veulent se battre pour avoir une image. Alors ça, c'est important, très très important, une image de philanthrope. Mais ils ne donnent pas. S'ils donnaient, ils auraient plus d'argent. L'argent, ça doit circuler. C'est pas, ça ne doit pas rester bloqué quelque part.
Donc les dégâts collatéraux de leur maladie, c'est aussi les arrestations et les gens qui sont en prison actuellement. Là, on peut rappeler que y a eu un procès à Privas début décembre, que deux personnes ont été condamnées suite à une action au Pouzin. Il y a un procès demain aussi au tribunal de grande instance de Valence d'une personne qui a été arrêtée suite à l'action de blocage du 8 décembre du plateau des couleurs. C'est l'action qui a été l'occasion du procès du 26 décembre dont on a beaucoup parlé à RDWA pour 4 plus un d'ailleurs, et une cinquième personne condamnée le 10 décembre. Donc 5 personnes qui ont été condamnées à ce moment-là. Donc procès demain encore pour quelqu'un. Je sais pas, j'ai pas l'heure. Et puis pour dans le cycle de répression aussi, on peut donner saluer en solidarité les camarades du rond-point de Montélimar Nord où il y a eu 11 interpellés et 10 personnes en garde à vue, une personne en centre pénitentiaire et 3 sous contrôle judiciaire. Ça c'était le 23 janvier. Et puis bon, on peut pas faire la liste de toutes les personnes interpellées, mais par contre, je voudrais signaler une émission de radio qui est sortie. Alors si je retrouve mon papier, dans l'émission du 22 janvier de Actualité des luttes, l'émission qui sort sur Fréquence Paris Pluriel, une radio FM parisienne, mais qu'on trouve sur le site Actualité des luttes. Une émission avec Raphaël Kampf, qui est un avocat qui se consacre à la défense pénale, aux droits des étrangers et aux libertés fondamentales. Et en sa compagnie, l'actualité des luttes revient sur les dispositions judiciaires prises depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est 60 minutes à écouter, et puis voilà, parce qu'on n'aura pas le temps de vous la passer.
Raphaël Kampf, c'est l'avocat d'Arthur, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est aussi l'avocat de Stéphane Trouille. Donc effectivement, qui est très très au courant de tout ce qui se passe au niveau des violences policières et qui fait partie de ces personnes qui sont là sur le terrain, pas que depuis le 17 novembre, et qui sont vraiment des avocats qui sont là, qui étaient là sur les expulsions de la ZAD, qui ont beaucoup de connaissances et beaucoup de rage et de colère, parce que malheureusement aujourd'hui quand on est avocat c'est quand même pas fastoche, c'est un peu comme si on pissait dans un violon, ils disent souvent, hein. C'est vraiment une expression que j'ai entendue des avocats dans une interview de plusieurs avocats qui est apparu dans Jeff Clack il y a un an ou deux, mais c'est voilà, parce que c'est questionnant. En tout cas, si vous avez l'occasion, si vous avez le temps d'aller à certains procès, c'est extrêmement riche de connaissances et de compréhension du système judiciaire.
Et donc merci aux avocats d'essayer de faire sortir les personnes de prison, et puis nous aussi on peut le faire. Par exemple, à Toulouse, C'était le 25 janvier, une manif d'une centaine de personnes s'est dirigée, c'était vendredi 25, en direction de la prison de Cesse à côté de Toulouse, et où de nombreuses personnes sont envoyées en prison depuis le début du mouvement. Et puis chaque lundi, c'est le lundi, là-bas, les juges distribuent à l'appel des condamnations à de la prison ferme contre des présumés émeutiers. Alors quelques feux d'artifice ont été tirés et les cris de liberté pour tous, avec ou sans gilet, liberté, sont parvenus aux oreilles des personnes enfermées. Des draps ont été accrochés à la fenêtre et il y a eu quelques réponses en retour. Donc voilà, ça vaut le coup d'être peut-être de songer à détruire ces prisons, puisque c'est des lieux de punition et d'enfermement qui résolvent rien du tout, à part qui permettent au capitalisme de survivre un peu plus. Donc voilà, ce qu'il faut détruire, entre autres les prisons.
Une autre peine de prison, moi, que j'ai en tête là, qui m'a énormément interpellée cette semaine, c'est qu'on a vu les vidéos sur les réseaux sociaux de cet homme qui s'est fait complètement fracasser la tête à l'image de la scène de American History X, là à Nantes, là samedi dernier, qui s'est fait interpeller de manière extrêmement violente, et donc on entend vraiment le bruit de ses dents qui claquent sur les pavés. Ça fait très mal, et la mare de sang qui sort, on va pas rentrer dans les détails parce que moi ça m'a bien fait frissonner. Et il est passé en comparution immédiate le lundi et il a écopé d'un an de prison, dont 6 mois de sursis. Ok, d'accord. Donc pour avoir, je crois, jeté un caillou, soi-disant. Donc c'est pareil, encore une fois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, ça pose quand même question, parce que dans la manipulation, il y a aussi le mensonge, malheureusement. Et donc, du coup, pour avoir jeté un caillou, et j'imagine pour avoir participé à cette manifestation, mais voilà, et ce qui est assez... Je mélange l'histoire de Jérôme Rodriguez aussi, qui s'est fait éclater un œil. C'est le mensonge et la manipulation qui m'ont fait dévier un petit peu, parce que du coup, effectivement, s'il y a un des leaders, des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui s'est fait percuter l'œil avec un tir de flashball ou avec une grenade de désencerclement, on ne sait pas exactement laquelle de ces deux armes lui a arraché l'œil samedi, place de la Bastille. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est Laurent Nunez, qui est secrétaire d'État chargé de la sécurité, en fait. J'ai pas mon truc sous les yeux, donc je vais vous le faire de tête, mais qui a annoncé qu'il n'y avait pas eu de tir de flashball ni de jet de grenade de désencerclement à ce moment-là. Et donc il y a des journalistes qui sont venus recouper plusieurs vidéos, puisque aujourd'hui il y a quand même beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes qui ont le réflexe de filmer, même si souvent on n'a pas les cœurs de scène, en tout cas quoi. On voit souvent des blessés, mais parfois il nous manque des choses. Bref, c'est toujours très très intéressant d'avoir son téléphone et de filmer et de pouvoir se rendre témoin. Des situations. Et donc Laurent Nunez a annoncé qu'il n'y avait pas eu de grenade de désencerclement ni de tir de flashball, et pour autant deux personnes, dont un membre des brigades mobiles et le journaliste, je ne sais plus comment il s'appelle là, qui s'est fait éclater le sous l'œil aussi il y a 2-3 semaines, qui ont tous les deux l'habitude d'entendre et de voir des tirs de flashball et des jets de grenades, qui sont venus, en décortiquant les vidéos, prouver par A plus B que bien sûr, écoutez, à un moment, il va falloir peut-être essayer de sortir de votre monde féerique. Je me demande si on leur a pas raconté un peu trop d'histoires assez grands, puissants, pour qu'ils arrivent à mentir de manière aussi déconnectée du monde. Voilà.
Et on est dans un monde de mensonges actuellement, de toutes les façons, on est là-dessus. La technique qui est utilisée par Macron est extrêmement efficace. C'est tout dire et son contraire. Et on sait que les gens vont s'identifier à ce qui les arrange. Mais aux États-Unis, c'est pareil, et en Chine, c'est pareil. Donc le problème qu'on a actuellement, c'est ça, c'est que toutes les informations sont vraiment bloquées. J'ai des amis aux États-Unis, je leur demande « Vous savez ce qui se passe en France ?» Non. Ils ne reçoivent aucune information, mais aucune. Par contre, j'ai des amis aussi aux États-Unis qui sont pro-Trump, mais quand je vois les vidéos pro-Trump qui circulent dans leur circuit, je me dis « Mais c'est absolument incroyable !» Donc en France, je pense que c'est exactement pareil. Il y a des domaines dans lesquels les gens reçoivent des vidéos qui sont des fake news très très bien manipulées. Ils ont des budgets énormes, il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont le côté financier. Donc ils peuvent nous envoyer n'importe quelle information, associée en plus avec les sons subliminaux. Et là, les gens continuent d'y croire. Moi, j'ai des gens que je respecte beaucoup en France et à l'étranger. Et je suis effaré de voir leur niveau de croyance dans le système actuel, qui sont persuadés que tous les gens qui descendent dans la rue sont des casseurs, sont des moyens, ils valent rien, d'ailleurs, on nous l'a dit.
Une des solutions, c'est aussi de faire, d'être nous-mêmes les médias. C'est un peu « Soyons nous-mêmes le média », c'est un des slogans du réseau d'Indymédia. C'est aussi ce qu'on fait à la radio là ce soir. Donc on l'a pas dit sur le 107.5 dans le Diwa, mais sur rdwa.fr dans le monde entier. Peut-être qu'on pourra lancer un appel en américain pour dire, pour les Américains, les Américaines qui comprennent le français, mais de dire que voilà, ce site internet émet dans le monde entier et de ne pas se fier aux médias dominant. Et une des façons aussi, c'est ce qui s'est passé en Isère en début de semaine à Haute-Jarry, à côté de Grenoble, après l'incendie des bureaux des journaflics de France Bleu Isère à Grenoble lundi 28 janvier 2019 au petit matin, et d'une partie de ses studios. C'est le local technique d'un émetteur TDF qui a été saccagé puis incendié le lendemain, mardi 29 janvier. Donc cela s'est passé vers 2h du matin à Haute-Jarry sur les hauteurs de Grenoble dans l'Isère. Et cette heureuse coïncidence temporelle a cette fois perturbé les émissions de France Musique, mais aussi les abonnés des principaux opérateurs de téléphonie mobile, Orange, Bouygues et SFR, dont la réception sur Grenoble est fortement dégradée, au dire des opérateurs. Concrètement, la porte de l'émetteur a été fracturée et des inconnus ont saccagé les équipements électroniques, puis incendié le tout. Après qu'une des voix du pouvoir se soit tue lundi, c'est donc aussi la communication médiée par la technologie au service de la flexibilité relationnelle et managériale qui a été impactée mardi. Et les incendiaires ont publié un communiqué sur Indymédia Nantes, dont je vais lire le début puisqu'il y a aussi question de manipulation. Ici, on n'apporte rien de neuf contre les industriels d'hypnose collective, contre les fabricants de subjectivité consentante à la société existante. C'est clairement contre la manipulation de ces médias de masse que ces incendiaires ont choisi la voie du feu de ces objets techniques pour répondre et faire que peut-être que pendant les quelques heures où les Grenoblois et Grenobloises n'ont pas été sous le coup de ces médias, et ben ils ont peut-être pu aller écouter leur radio locale aussi et ou se dire eux-mêmes qu'ils allaient faire de l'information.
C'est vrai qu'on a une grande chance d'avoir une radio comme Radio Diwa, parce que ce que j'ai pu toujours vérifier ici, c'est qu'il y a un sentiment de liberté. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de venir quelques fois maintenant, et j'ai toujours vu que la porte était vraiment grande ouverte, qu'il n'y avait pas de blocage, d'une imposition, d'exprimer une pensée collective ou quelque chose, et chacun s'exprime. C'est un peu ce que j'ai trouvé sur le rond-point des Gilets jaunes aussi. Et je trouve que dans le Diwan, on a beaucoup de chance. En redisant, si je peux me permettre encore, en remerciant encore les gardiens de la paix de Die, les employés de la mairie et les employés de la sous-préfecture qui ont tous été impeccables. Et il y a vraiment dans le Diwan, c'est une chance que l'on a ici, une communication qui est vraiment appréciable. Bien sûr, il y a des débordements. Il peut y avoir des débordements, il y en a eu, malheureusement.
Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont manipulateurs et qui mentent et qui se servent de leur posture et de leur place sur le territoire. On a pu le voir quand même il n'y a pas longtemps, et on le voit en ce moment, si on a le temps d'en parler ce soir. Moi, j'ai quelques petits coups de gueule à taper sur ce qui se passe sur les rencontres de l'écologie au quotidien, avec toute la mesure d'y être allé et puis d'avoir pas mal réfléchi, puis d'avoir discuté avec pas mal de gens. Mais je fais cette passerelle pour dire qu'il y a eu quand même une discussion mardi dernier dans le cadre de ces rencontres autour du journalisme de solutions. C'est extraordinaire comme on peut être manipulé quand on est dans l'entre-soi, vraiment. Parce que pour le coup, c'est une rencontre où RD1 n'était pas invité, les médias participatifs comme Ricochet n'étaient pas invités, qui sont des médias qui sont collaboratifs, participatifs. Il y a une charte, en tout cas, il y a une carte d'adhésion à prendre à RD1. Après, je pense pas que tous les membres du conseil d'administration et les salariés viennent écouter chaque émission. Il y a une espèce d'accord tacite de contenu, tout ce qu'on peut trouver aussi dans les règles qui sont imposées par le CSA. Mais on reste quand même assez libre ici. Moi, j'entendais mardi après-midi, par exemple, que Média Citoyen d'Iwa était un média collaboratif, avec 137 collaborateurs, avec une vocation à couvrir les initiatives locales sur le territoire, avec une validation collective, avec une charte de bienveillance, avec une volonté d'être dans la non-violence, avec du coup une forme de c'est pas neutralité le mot, puisque le thème c'était journalisme de solution. Donc dans le journalisme de solution, il y a un positionnement qui est aussi de pouvoir donner la parole à tout le monde pour donner plusieurs points de vue. Donc il y a autant d'articles pour les Gilets jaunes que contre les gilets jaunes. Moi, ça me fait beaucoup rire, hein, parce que d'une, bah, allez regarder sur Médias Citoyens d'Iowa, il n'y a que des articles contre les gilets jaunes, et c'est assez impressionnant ce qui est diffusé là-bas. Hein. C'est vraiment, puis alors, c'est pas des articles qui sont écrits par les collaborateurs de MDC, hein. Ces articles qui sont repêchés sur des sites de machin, de trucs. En termes de recouper les informations, j'aimerais bien voir aussi comment ils se débrouillent, ils au pluriel ou au singulier, parce que bon, 137 collaborateurs, quand je vois qu'on est 100, on a été 115 adhérents à Radio Diwa en 2018, ça questionne quand même dans la balance. Et il y a également sur ce média des articles qui sont assez diffamatoires et mensongers. J'entendais encore tout à l'heure en discutant avec quelqu'une qu'un article avait été fait sur un festival de la région que je ne nommerai pas l'année dernière, un article qui est paru sur une revue extérieure, parce qu'il y a aussi la question de qui écrit, signer les articles, ce qui n'est pas toujours le cas sur Médias Citoyens d'Iowa, hein. Et du coup elle me dit, ah bah ouais, bah nous c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière, on a eu un super article dans la revue Bip et ça a été relayé sur Médias Citoyens d'Iowa avec un petit paragraphe en plus. Oui, malgré le fait qu'il y ait eu trop d'alcool et de pétards, donc en fait, je donne mon avis, et en plus, je me permets de le donner sur un article qui n'a pas été écrit par moi-même. Donc c'est très questionnant, et ça, pour moi, c'est aussi le propre d'une forme de manipulation qui parfois fait un peu hérisser les poils sur le dos.
C'est pas toujours évident, voire même jamais, en fait, d'être totalement impartial. En tant que, bah, ne serait-ce que journaliste, mais aussi dans d'autres, je dirais, dans d'autres métiers de communication. Mais je pense que c'est nécessaire des fois d'être transparent là-dessus, quoi. Si on a des idées, des opinions et tout ça, bah, on le dit, et on se considère pas neutre. Et si on dit qu'on est neutre et qu'on ne l'est pas, c'est qu'il y a effectivement là de la... J'aime bien cette expression, de la dissonance cognitive. Hein. C'est très à la mode en ce moment.
Oui, c'est très à la mode.
Soit on est dans nos pompes, soit on est à côté, quoi. Et quand on est à côté de nos pompes, c'est pas facile, je pense. Hein. Moi, ça m'est arrivé aussi sur certains sujets. Et je pense que ça peut m'arriver encore. C'est pas facile de voir qu'on est à côté de nos pompes, de comprendre, de l'admettre. Et de, je rebondis là-dessus, comme tu disais, de revoir notre jugement, notre comportement aussi vis-à-vis des autres, notre communication. Moi, je veux pas trop rentrer dans ce débat-là, moi, parce que je vois que ça mène beaucoup de tensions et que, avec ce qui s'est arrivé, ce qui est arrivé là à la cabane, c'est un petit peu pesé sur les épaules, je dirais, plus à certains qu'à d'autres, bien sûr. Un petit coucou à Majid, dont j'ai écouté l'interview sur Radiwa là, tout récemment.
Qui est en podcast, hein, du coup, vous pouvez l'écouter.
Et que j'ai revu depuis, bon, voilà, ça fait du bien de pouvoir le croiser, il se remet doucement. Hein. Et pour dire, je digresse. Je disais oui que je voulais pas trop rentrer là-dedans, mais apparemment, moi du peu que j'ai lu et surtout les réactions que j'ai vues dans des personnes qui me semblent des personnes cohérentes et sérieuses, que ça m'était hors d'eux, et les personnes aussi qui étaient concernées, hein, bien sûr par la nuit et par tout ce qui se passe au rond-point, et qui étaient présents aussi lors des discussions avec une certaine personne qui aurait écrit ce papier, apparemment c'est mensonger. Moi, du peu que j'ai entendu et vu la colère dans laquelle ça peut mettre les personnes par un sentiment d'injustice, je pense que ouais, ce qui est écrit n'est pas juste. Il y a un manque de recul et une certaine orientation. Ouais. Voilà, après, effectivement, je prends moi un peu de distance par rapport à ça. J'essaie de porter mon regard sur autre chose qui est plus constructif. Ah, le micro. Ouais. Ce qui est plus constructif. Est-ce qu'on veut encore embrayer là-dessus, sinon hop.
Alors peut-être que tu veux parler de Commercy.
Mais on peut peut-être mettre un petit pause musical.
En tout cas, on peut annoncer à nos auditeurs auditrices qu'on va parler de Commercy. J'ai encore un point à l'agenda, alors qui n'a rien à voir. C'est à Vernou en Vivarais. Ouais. C'est le 6 février, projection du documentaire de Janusz Joluntas, L'amour et la révolution. C'est en partenariat avec l'AIL, Écran Village, et Et donc c'est à 20h30 à Vernoux en Vivarais. Voilà, il y a aussi des choses comme ça qui se passent. Et dans la rubrique Détruire ce qui nous détruit, à Trans-en-Provence, dans le Var, la nuit de jeudi à vendredi 25 janvier vers 1h30, la station-service de Carrefour a été entièrement ravagée par un incendie volontaire. Et le gérant de Carrefour ne peut que tirer une conclusion sans équivoque, la station est morte. Il faut tout reconstruire. Ben non, pas forcément. Pas forcément.
Et si je peux rajouter quelques points à l'agenda, demain, AG du Diwa au rond-point à 18h, comme toutes les semaines. On va continuer à s'organiser, à se coordonner. Il y aura en même temps, moi je ne serai peut-être pas à l'AG du Diwa, car je serai à l'AG général de la Drôme, qui aura lieu un peu plus nord, bien plus au nord dans la Drôme, où on va se réunir donc entre différents départements, différentes villes pardon, de la Drôme, pour une AG générale. Ça aura lieu en même temps. Et je rappelle, je me permets de rappeler, puisque Di a lancé officiellement son appel vidéo, et à la grève générale de la consommation et du travail. Donc des fois on peut pas faire les deux, on en choisit, hein, mais le mieux c'est d'essayer d'en faire un maximum, tous en même temps, reconductible et illimité, histoire de mettre à mal un petit peu ce système qui nous étouffe.
Voilà. Les dates.
J'ai pas donné la date, ouais. C'est le 5 février, à partir du 5 février.
À partir du 5 février, appel à la grève. Et l'appel est en ligne, on peut aller le voir sur Vimeo, sur YouTube. Et toujours vendredi soir, on peut aussi... Ah oui, pensez à éteindre vos portables. On peut, après l'Assemblée Générale, rejoindre le rassemblement des coquelicots qui a lieu une fois par mois. Et donc, ce sera vendredi après l'AG du rond-point, on va dire. Voilà. Mais si vous n'allez pas à l'AG, c'est à partir de 18h30. Et alors, c'est soit devant la mairie, soit sur la place du marché, je ne sais pas, mais vous verrez du monde, donc des coquelicots contre les glyphosates et tous les pesticides et l'agriculture industrielle.
Je voudrais juste dire un petit mot, parce qu'on a beaucoup parlé de personnes qui ont eu un comportement qui est inacceptable, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, que ce soit dans l'écriture de certains journaux que je n'ai pas lus, mais on m'en a beaucoup parlé, et puis surtout dans le comportement des gens qui sont venus sur le rond-point. Ce sont des gens que je connais et que j'apprécie pas autant. Donc il n'est pas question de juger complètement les personnes, ce sont des personnes qui peuvent apporter beaucoup, mais qui ont eu des comportements à certains moments qui n'est pas acceptable. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ici on s'exprime très librement, et puis c'est tout. Mais donc moi j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie que l'important c'est d'arriver à les reconnaître, et puis à évoluer, à changer, à se pardonner, et puis à utiliser un autre comportement, mais tout le monde peut faire des erreurs.
Je mets une petite musique, comme ça on fait une petite pause musicale avec un rappeur qui a sorti un super rap. Comme ils disent les rappeurs, un sale rap. Moi je connaissais pas, je croyais que c'était nul. En fait non, ça tue, ça déchire grave, c'est d'instinct et c'est un rap sur les gilets jaunes. Stock Stock qui est sorti cette semaine. Voilà. Pardon, auditeur, auditrice de RDY 107.5, on est en direct.
Je la vois tous les samedis. On n'a plus un frein, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y'a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent et je peux te dire qu'ils ont la rage. Ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés des masques à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chassent de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout gazer. Dans
dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe, c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous, mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi, je te dis que t'as hurle, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là, planté devant les flics, et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis, quand t'es en plein milieu de la manif, et que tu vois les flics se ganter, des minutes après, tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue? Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés. Le peuple avec un manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y'a aussi des flics déguisés, aux matraques aiguisés, qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle-même paraît être la marionnette du mal qu'il inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé, c'est propagé dans le monde entier. Faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier?
Ok, c'était d'instinct sur les ondes du 107.5. Nous sommes toujours sur RDIWA dans les studios. Vous pouvez nous écouter également sur le site internet rdwa.fr. Voilà, donc superbe discussion ce soir avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Et puis ça fait du bien d'être nombreux et nombreuses dans les studios. Donc je vous rappelle également que le jeudi à partir de 19h30 jusqu'à 21h, l'antenne est libre. Vous pouvez venir taper un coup de gueule, nous dire une poésie, parler de l'actualité puisque c'est quand même notre créneau. On parlait des comportements.
Oui.
Intéressant, très intéressant, c'est vrai. Et c'est intéressant aussi, donc, comme on en parlait un petit peu en off, je veux bien faire une petite passerelle avant qu'on passe à autre chose, cette histoire de comportement en instant T, d'accord, oui, bien sûr. Après, quand les comportements s'installent et que du coup, ça devient des positions soit de personnes, soit de groupes de personnes sur d'autres groupes de personnes, là, ça peut devenir problématique. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on peut voir en haut. Puisqu'on parle beaucoup donc de ce qui se passe au gouvernement, à l'Assemblée nationale, je pense que j'aimerais bien voir l'audimat du compte YouTube de l'Assemblée nationale ces derniers temps, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se mettent à se dire oh là là tiens ben voilà moi j'aimerais bien comprendre comment ça marche quoi. Et effectivement on peut voir des comportements complètement dingues comme cette semaine moi je voyais un député qui disait en fait ce serait quand même bien d'arrêter de tricher les gens là parce que chacun a un boîtier. Moi j'ai compté 68 personnes dans la salle et il y a 182 votes pour. C'est bizarre quand même, c'est pas normal. Voilà, donc du coup, voilà, ça fait partie de ces histoires de comportement. Et donc, je disais ça en off aussi par rapport à des comportements qui peuvent être mensongers ou volontairement diffamatoires. C'est pas forcément de la malhonnêteté, c'est peut-être aussi pour protéger des positions. Et moi, j'ai la sensation, l'intime sensation cette semaine en ayant mis les pieds à la salle polyvalente de Die, puisqu'il y a les rencontres de l'écologie au quotidien, que en fait, j'étais pas dans mon milieu. J'étais vraiment pas dans mon milieu. Et après, j'apprécie en fait à certains moments me dire, je vais aller visiter un autre milieu, rencontrer d'autres personnes. Et essayer de discuter et c'est vrai que ben là-bas c'est quand même vachement c'est pas une histoire de comportement à un instant T, c'est des comportements multiples qui sont c'est très difficile en fait d'arriver à communiquer, à pas être dans une énergie étouffante qui se veut bienveillante. Et j'en viens à la fin de ma phrase puisque je fais des phrases sans point souvent, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi la question de la gestion interne des conflits et que quand on a peur en fait que ça pète,
souvent on se trompe, on va pas directement dans le cœur du sujet. On passe à côté, puis on veut pas trop dire des choses méchantes ou agresser la personne qui est en face. Et du coup, en fait, on en vient à laisser les choses s'installer, et c'est là où ça devient vraiment très problématique. Tout ça pour dire que, voilà, les rencontres de l'écologie au quotidien, je respecte énormément les gens qui y vont. Moi-même, je me suis pas du tout sentie à l'aise et j'ai l'impression que c'était des pensées uniques. Nous, les éduqués et les autres, ça j'ai vraiment entendu ça. Hein. Et puis que quand on va dans la librairie voir des bouquins de Marlène Schiappa et de Elisabeth Badinter avec au-dessus marqué féminisme et voir des bouquins de politique avec même pas le manuel de transition de Rob Hopkins, pardon, excusez-moi, on parle de l'écologie, je pense que en plus c'est pas l'écologie radicale, c'est quand même les mouvements de transition et tout, allez, un petit Jean-Marc Rouillant et un Travène sur le côté, mais il y a quand même des milliers de bouquins, surtout vu le contexte actuel, qui parlent d'autre chose que le bien-être personnel. Par contre, bien-être personnel, éducation, éduquons les autres. Non, non, s'il vous plaît, en fait, n'essayez pas de m'éduquer, car l'éducation, elle se fait dans l'échange. Et s'il n'y a pas d'échange, moi, je peux pas apprendre, quoi.
C'est sûr que je n'aurai jamais été éduqué, Stéphane, ça c'est certain. Ça. Je pense que c'est perdu d'avance. Mais là, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des choses très très bien à l'écologie du quotidien. J'y suis allé quelques fois et j'apprécie beaucoup, j'apprécie les dirigeants. Ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils ont leur personnalité. Donc effectivement, leur personnalité, elle transfère, elle est partout. Et puis les gens qui viennent sont des gens qui sont en harmonie avec eux. Donc ils expriment un point de vue. C'est clair. Donc toi, tu as rendu du bois, tu exprimes autre chose, c'est très bien. Et ce sont les deux points de vue, les points de vue différents qui permettent une discussion et qui permettent à chacun d'avancer. Mais si on regarde un petit peu comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ces comportements qui sont difficiles. Moi, j'en reviens toujours à cette explication très très simple et qui marche très bien, ces cinq comportements fondamentaux qui sont en relation avec les cinq éléments. Parce que quand on a compris ça, on arrive à voir quelle est la contrepartie. C'est-à-dire... Le comportement à quelqu'un qui est toujours dans la logique, qui veut prendre le pouvoir, eh bien, face à ça, il faut avoir une attitude d'humilité. Quelqu'un qui veut manifester la peur et prendre le pouvoir par la peur. Je viens de voir un film, l'écologie du quotidien, justement, qui était là, et qui mettait les gens dans une peur pas possible. Mais il faut sortir avec la joie. C'est la joie qui permet de sortir de là. Donc ensuite, quelque chose qui est plus classique à l'écologie du quotidien ici, c'est l'élément R. Et l'élément R, c'est toute l'expression d'un perfectionnisme, d'un idéalisme, d'un domaine religieux, d'un domaine artistique, etc. Et face à ça, eh bien, il faut exprimer sa foi. Mais sa foi à soi, s'exprimer avec veritas, comme disent les Anglais. Et puis après ça, ceux qui sont dans l'affect, qui essayent de vous faire pleurer, eh bien, il faut arriver à se mettre au niveau de l'amour universel. Et en dernier, la dernière chose, c'est ceux qui veulent vous embarquer dans un système, dans un contrat, dans une force, une de force, avec toute la puissance qu'il y a de la guerre, etc. Et bien là, il faut retrouver la paix en soi. Simple.
Cette vision de approche. Ah bah, attends, t'es parti, vas-y.
Micro. Allô, un test.
C'est bizarre, attends, je t'ai plus. Alors, celui d'à côté, peut-être.
Un micro.
Ouais.
Un micro.
Bah, vas-y.
Je ne m'entends pas. Allô.
Ah non, ça marche plus.
On recherche les micros.
Bah non, mais il y a tous les micros qui sont ouverts là.
Allô. Ils sont pas branchés, c'est tout.
Mais non, ça marchait tout à l'heure, mais. Alors, donc, si là. Allô. Oui, vas-y. On réessaye. Ouais, là, va là-bas.
Ok. Ici, ici.
Mais non.
Non.
Bon, bah, désolé. C'est moi la technique et là, je comprends pas.
Il y a des systèmes extraordinaires qui existent. Peut-être qu'il faudrait mettre les jacks. Moi, j'y connais rien,
ici.
Mais.
J'ai un petit truc.
Ouais, vas-y.
Et coucou.
Ah, coucou.
Ah bon, bah, voilà. Et ben là, je m'entends un petit peu.
Oui, c'est bon, c'est ça. Pardon, auditeur, auditrice.
Désolé, petit bug technique. Nous sommes en direct. Les aléas du direct. Cette touche du coup philosophique, on va dire, voilà, tirée du Tao, de la philosophie taoïste. Alors moi je trouve ça intéressant et ça, il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir, c'est que ce soit au niveau, on va dire, rond-point local et des AG qui commencent à se constituer, les AG départementales, régionales et nationales, petit clin d'œil à Commercy, on voit qu'on est systématiquement dans la confrontation d'idées. On a, voilà, il y a ces histoires de revendications et quoi qu'il en soit, on se croque le cerveau, on réapprend, on réinvente ou on se réinvestit, on récupère notre pouvoir politique par le débat et par le faire ensemble. Donc il y a cette confrontation d'idées. Alors peut-être que c'est ce qui peut être par certains reproché peut-être à Écologie au quotidien. En tout cas, j'ai entendu ça de quelques personnes, hein, bien que moi-même je me tienne assez loin de ce milieu-là. C'est qu'il n'y avait pas vraiment d'ouverture à la confrontation des idées, que ça pouvait être parfois assez consensuel. Bon, ça c'est pour ce cas-là. Mais plus largement, on voit aussi ce clivage entre le grand débat qui nous vient d'en haut et les consultations populaires au niveau des revendications qui viennent d'en bas. C'est pas encore connecté, il y a le grand débat en haut et les grandes consultations en bas, ce qui montre là aussi ce manque de communication entre les deux, entre le gouvernement et le peuple et tout ça. Et alors qu'on a tous besoin donc de cette confrontation d'idées, on a tous besoin là de mettre tout à plat, tout le système, pour dire ça comme ça, que ce soit capitalisme ou que ce soit le système, comme on peut l'appeler. On a besoin de nouveau, et pour ça on a besoin de tout mettre à plat, donc de confronter nos idées. Et faut pas avoir peur de ça, en fait. Faut pas avoir peur ni de se tromper, ni de s'être trompé, de devoir changer. En fait, on n'a pas trop le choix. On n'a pas que à débattre et à choisir des revendications. C'est qu'à un moment donné, il va falloir trouver comment on peut les faire appliquer. Et là on est des fois dans des impasses, parce que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau européen ou au niveau des lobbies qui influencent grandement l'Union européenne, on voit que ça va être difficile pour nous de vraiment reprendre notre gouvernance, notre autonomie politique, financière, etc.
Moi, je pense qu'on y arrive. Il y a une réunion qui s'est passée hier qui est assez formidable, c'est la réunion de la Corderie. Et la Corderie, il y a quand même plus de 500 membres. Et la soirée d'introduction aux nouveaux membres était remarquablement bien animée par Dorine, que j'aime beaucoup. Elle est vraiment une très très bonne animation. Et ce qui me fascine avec ce mouvement, c'est de mettre en évidence la difficulté que chacun a d'exprimer, de trouver ce qu'il peut apporter aux autres et au monde. Et là, c'est une assistance remarquable pour dire, bon, mais qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux échanger? Si ton heure de temps vaut une heure de temps de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu peux apporter en une heure? Et c'est assez formidable de voir des gens de tous horizons qui sont là et qui découvrent progressivement, tiens, ah, c'est vrai, je peux apporter ça, et ça peut apporter, ça peut aider plein de gens, mais je vais le faire. Et c'est formidable. Donc là, vraiment, on est sur une dimension nouvelle qui va vraiment dans le sens de la construction d'un nouveau système humain qui va s'éloigner complètement du système capitaliste.
Est-ce que tu peux juste rappeler, du coup, comment ça se passe à la Corderie et s'il y a des rendez-vous pour les personnes qui seraient intéressées de rejoindre l'association ?
Oui, alors je ne suis pas la plus qualifiée pour en parler. Moi, je suis simplement un adhérent, mais donc il y a des... Je crois qu'il faut retrouver le site, l'accorderie, l'accorderie.fr, je suppose. Et là-dessus, se rendre, donc c'est dans la petite rue Émile Laurent, juste à côté de Andartin, un petit peu avant. Et là, il y a une permanence, je crois, le mercredi matin, le samedi matin au moins, de mémoire. Donc, vous pouvez rencontrer les gens qui sont là-bas. Et puis après ça, il y a une discussion pour ceux qui veulent venir et participer à ce mouvement sans aucune contrainte. C'est vraiment que des ouvertures. Donc, j'invite vraiment les gens à aller là-bas, venir discuter et puis venir se rendre compte de ce qui se passe. Il n'y a que des cadeaux.
Donc, 45 rue Émile Laurent, et donc les permanences sont le mardi de 17h à 18h30, le mercredi et le samedi de 10h à 13h, donc les deux jours de marché. Allez jeter un œil, rencontrer les gens, proposer des services, et puis voilà.
Ouais, c'est génial de remonter là-dessus, parce que du coup ça fait le lien entre le fait de changer nous-mêmes, de changer ce système et de se positionner. Alors évidemment on a tous des transformations intérieures à opérer, mais on a aussi à se placer dans ce monde. Et effectivement, trouver notre place et qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous nourrit et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, que ce système justement ne cherche pas à développer chez nous, et il est plus que jamais important de se concentrer là-dessus. Quel est mon rôle, quel rôle je veux jouer dans tout ça, quoi. Et donc c'est chouette que... Tu vois, j'avais pas trop entendu parler de la corderie, mais j'entends beaucoup de belles choses à ce propos.
Moi je le recommande à tout le monde. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment un passage formidable, mais il faut voir que c'est vraiment pas évident, hein, parce que donner une heure de son temps en échange d'une heure de son temps de quelqu'un d'autre, waouh, ça c'est pas évident. Moi j'ai fait cette expérience, moi je la raconte très rapidement, parce que c'était fabuleux, je voulais prendre des cours de chinois, et j'ai vu une jeune femme que je connaissais, et je lui ai dit, bon, est-ce que tu pourrais me donner des cours de chinois ? Elle m'a dit, ben, ça tombe bien, moi aussi je voudrais prendre des cours de français. Et spontanément, je lui ai dit, ben, ok, on peut faire un échange. Mais ça m'était venu tout à fait naturellement. Et après, mes amis m'ont dit, mais tu te rends compte ? Pourquoi est-ce que tu vas perdre ton temps à donner des cours de français alors que son salaire est 40 fois inférieur à ton salaire ? Donc c'était vraiment un non-sens économique. Mais j'ai quand même suivi mon point de vue et j'ai vécu une expérience absolument fabuleuse. J'ai appris des choses en français parce qu'elle m'a posé des questions que jamais personne ne m'avait posées, que je ne m'étais pas posé moi-même. Et j'ai donné le meilleur de moi-même, elle a donné le meilleur d'elle-même et on a fait plusieurs échanges comme ça, d'une demi-heure chacun pendant longtemps. Donc je crois qu'on n'imagine pas ce qu'on peut découvrir lorsque on se rend compte et on vit l'expérience de une heure de mon temps vaut une heure du temps de n'importe qui. Macron, un Palestinien, un Yéménite, n'importe qui.
Je fais un... Alors non, vas-y.
Ouais. Bah, c'est là, en fait, toute la complexité de ce qui se joue en ce moment. C'est donc qu'on a à se réinventer ou s'inventer soi, se positionner, à changer parfois ou à faire évoluer, à affiner nos comportements pour qu'ils soient plus justes, plus cohérents, plus intègres. Et il y a cette histoire de communication. Donc effectivement... que ce soit sur les ronds-points, dans les assemblées, à la corderie aussi, et dans d'autres lieux, le fait de réapprendre à communiquer les uns avec les autres, de recréer du lien social, et c'est vraiment ça qui se crée aussi à toutes les échelles. C'est on a envie plus ou moins, hein, tout le monde n'a pas envie, mais de reconnecter avec, on va dire, avec le haut. On a envie de le faire redescendre de ses grands chevaux, les gens qui sont un peu trop hauts. Mais on aimerait bien reconnecter, retrouver de la cohésion, de la cohérence dans tout ça, quoi.
Je crois que c'est impossible. Je crois que c'est impossible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens qui sont complètement bloqués dans leurs avoirs et dans leur image de quitter ça. C'est impossible. Le changement ne peut venir que d'eux. Le changement, il s'ouvre, vient de l'intérieur. Donc on peut nous-mêmes être le plus nous-mêmes possible, le plus naturel, le plus tolérant, et ne pas s'impliquer, les laisser faire le chemin, parce que sinon je pense que c'est vraiment impossible.
Ça veut dire que ces personnes qui sont peut-être, qu'on peut appeler hors sol, ou déconnectées, ou voilà, vont s'effondrer avec...
Mais ils le font, c'est comme je disais, c'est que manifestement, ils s'autodétruisent en étant comme ça. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler dans un centre américain de santé pendant 10 ans. Je peux dire que les personnes les plus riches au monde sont les plus malades. Ça, je l'ai vérifié. Et avec des maladies absolument terribles. Mais c'est des maladies qu'ils ont créées eux-mêmes, pour eux-mêmes. Donc, c'est à chacun de faire son chemin.
Ouais.
Et puis, il y a aussi, je pense, un flux énergétique qui est important. C'est-à-dire qu'ils restent en haut parce qu'on les soutient, parce qu'on leur obéit, que ce soit en commençant par aller à l'école obligatoire, et puis ensuite en allant au service militaire obligatoire, et puis ensuite en allant au service du travail obligatoire. Et que nous, ce qu'on peut faire, enfin, ce que j'entends quand tu dis être nous-mêmes, c'est aussi arrêter de leur obéir, arrêter de les servir. Et quand on comprend ça, et ben, en fait, ils s'effondreront d'eux-mêmes, ou en tout cas, leur système s'effondrera de lui-même, puisque c'est des humains comme nous, quoi. Du coup, ils seraient rien, même comme nous, même beaucoup plus faibles, puisque je pense pas qu'ils fassent leur lit eux-mêmes, qu'ils nettoient par terre ou qu'ils fassent leur vaisselle, par exemple. Donc en fait, s'il n'y a plus personne, si la personne qui fait leur vaisselle dit non, mais c'est bon, moi j'ai d'autres choses à faire, je vais sur un rond-point, par exemple, et voilà, il se retrouvera à faire sa vaisselle au lieu de dire des bêtises à la télévision et au lieu de faire de la manipulation, peut-être.
100% d'accord. Alors, justement, là, hier soir, on parlait des jeux d'enfance et je m'ai découvert que deux personnes qui étaient à côté m'ont dit « Moi, j'ai jamais joué au Monopoly quand j'étais petite. » Je lui ai dit « Maintenant, tu joues à quoi ?» Et maintenant, c'est ça le problème. C'est que le grand jeu capitaliste, un jeu de Monopoly avec des faux billets et où on se croit obligé de rester autour de la table. Mais on peut arrêter de jouer. Et c'est quand on dit j'arrête de jouer, non, 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 moi j'obéis plus à ces ordres-là, moi je veux faire quelque chose d'autre, je veux aller cultiver mon jardin, je veux aller ramasser des plantes sauvages, je suis désolé, mais ce système ne me convient pas. Exactement comme au Monopoly. Celui qui perd, il continue de perdre, puisque le jeu a été créé pour ça, pour montrer que le capitalisme ne marche pas, on en a déjà parlé. Ouais. Donc, pourquoi rester autour de la table? On dit non, j'arrête de jouer. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est arrêter de jouer.
C'est tout le challenge, ouais, de réapprendre du coup à être et faire ensemble. Le être est très important. Hein.
C'est, bien sûr.
On parle beaucoup de faire, hein, là aussi. On veut faire autre chose, on veut faire autrement, on veut faire tomber le système. mais on voit que le système, lui, il va beaucoup plus vite que nous. Mais que nous, on arrive à être bien plus puissants en tissant ces liens. Et en s'organisant par nous-mêmes. Là, pour vous dire très succinctement, ne serait-ce qu'avec les numéros de téléphone et les mails ou quoi qui sont échangés déjà localement et nationalement, il y a un réseau d'entraide qui s'est géré, qui fait que quand une alerte est donnée à un endroit, et ben souvent il y a des personnes qui sont tout aux alentours qui peuvent se rassembler. Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, c'est aussi plus facile puisqu'on s'est rencontré ou qu'on fait partie du même réseau, même si pour l'instant c'est gilet jaune, mais c'est en fait avant tout un réseau de personnes qui ont des valeurs similaires. Ça marche du feu de Dieu, quoi. Ça commence juste, mais c'est là qu'est toute la force, quoi.
Justement, est-ce que ça ne nous ferait pas une petite transition pour s'écouter l'appel qui a été coécrit par les différents groupes de Gilets jaunes qui se sont retrouvés samedi 26 et dimanche 27 janvier, donc le week-end dernier, à Commercy, petit village au-dessus de Nancy, dont la spécialité est la Madeleine. Et bien aujourd'hui, la spécialité des gens de Commercy, ça a été de lancer les assemblées populaires. Et il y a eu cette assemblée des assemblées, donc dont on pourra faire un petit point puisque tu y étais, Silas. Et donc du coup, voilà, ça c'est l'appel qui a été coécrit la semaine dernière à Commercy par 400, il y avait 450 personnes, c'est ça, une quarantaine de groupes au niveau national. 71, ouais, c'est vrai, c'est ça. 70 groupes qui se sont retrouvés, de personnes qui peut-être n'avaient pas les mêmes valeurs d'ailleurs à la base, hein, n'ont peut-être toujours pas les mêmes valeurs et se sont peut-être engueulées, sont peut-être allées dans le conflit. Tu nous en diras plus juste après l'écoute de cet appel. Oui. Les Gilets jaunes, appel de la première assemblée des assemblées. Du 27 janvier.
Alors, qui ont quand même une valeur commune, quand même, c'est de discuter ensemble et de se mettre ensemble pour discuter. Et à partir de là, je dirais, tout est possible et heureusement qu'on est tous et toutes différentes. Mais si on est d'accord pour se mettre ensemble et discuter, ça donne des choses comme ce qu'on va écouter là.
Appel de la première assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Nous, Gilets jaunes des ronds-points, des parkings, des places, des assemblées, des manifs, nous sommes réunis ces 26 et 27 janvier 2019 en assemblée des assemblées, réunissant une centaine de délégations répondant à l'appel des Gilets jaunes de Commercy.
Depuis le 17 novembre, du plus petit village du monde rural à la plus grande ville, nous nous sommes soulevés contre cette société profondément violente, injuste et insupportable. Nous ne nous laisserons plus faire. Nous nous révoltons contre la vie chère, la précarité et la misère. Nous voulons pour nos proches, nos familles et nos enfants vivre dans la dignité. 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité. C'est inacceptable. Partageons la richesse et pas la misère. Finissons-en avec les inégalités sociales. Nous exigeons l'augmentation immédiate des salaires, des minima sociaux, des allocations et des pensions. Le droit inconditionnel au logement et à la santé, à l'éducation, des services et à l'éducation, des services publics gratuits et pour tous.
C'est pour tous ces droits que nous occupons quotidiennement des ronds-points, que nous organisons des actions, des manifestations et que nous débattons partout. Avec nos gilets jaunes, nous reprenons la parole, nous qui ne l'avons jamais. Et quelle est la réponse du gouvernement ? La répression. Le mépris et le dénigrement. Des morts et des milliers de blessés, l'utilisation massive d'armes par tirs tendus qui mutilent, éborgnent, blessent et traumatisent. Plus de 1000 personnes ont été arbitrairement condamnées et emprisonnées. Et maintenant, la nouvelle loi dite anticasseurs vise tout simplement à nous empêcher de manifester. Nous condamnons toutes les violences contre les manifestants, qu'elles viennent des forces de l'ordre ou des groupuscules violents. Rien de tout cela ne nous arrêtera. Manifester est un droit fondamental. Fin de l'impunité pour les forces de l'ordre. Amnistie pour toutes les victimes de la répression.
Et quelle entourloupe que ce grand débat national. qui est en fait une campagne de communication du gouvernement, qui instrumentalise nos volontés de débattre et décider. La vraie démocratie, nous la pratiquons dans nos assemblées, sur nos ronds-points. Elle n'est ni sur les plateaux télé, ni dans les pseudo-tables rondes organisées par Macron. Après nous avoir insultés et traités de moins que rien, voilà maintenant qu'il nous présente comme une foule haineuse, fascisante et xénophobe. Mais nous, nous sommes tout le contraire. Ni racistes, ni sexistes, ni homophobes. Nous sommes fiers d'être ensemble, avec nos différences, pour construire une société solidaire.
Nous sommes forts de la diversité de nos discussions. En ce moment même, des centaines d'assemblées élaborent et proposent leurs propres revendications. Elles touchent à la démocratie réelle, à la justice sociale et fiscale, aux conditions de travail, à la justice écologique et climatique et à la fin des discriminations. Parmi les revendications et propositions stratégiques les plus débattues, nous trouvons l'éradication de la misère sous toutes ses formes, la transformation des institutions, RIC, constituante, fin des privilèges des élus, la transition écologique, précarité énergétique, pollution industrielle, l'égalité et la prise en compte de toutes et tous, quelle que soit sa nationalité, personnes en situation de handicap, égalité homme-femme, fin de l'abandon des quartiers populaires, du monde rural et des outre-mer.
Nous, Gilets jaunes, invitons chacun avec ses moyens, à sa mesure, à nous rejoindre. Nous appelons à poursuivre les actes. Acte 12 contre les violences policières devant les commissariats, acte 13-14. À continuer les occupations des ronds-points et le blocage de l'économie. À construire une grève massive et reconductible à partir du 5 février. Nous appelons à former des comités sur les lieux de travail, d'études et partout ailleurs pour que cette grève puisse être construite à la base par les grévistes eux-mêmes. Prenons nos affaires en main, ne restez pas seuls, rejoignez-nous.
Organisons-nous de façon démocratique, autonome et indépendante. Cette assemblée des assemblées est une étape importante qui nous permet de discuter de nos revendications et de nos moyens d'action. Fédérons-nous pour transformer la société.
Nous proposons à l'ensemble des Gilets jaunes de faire circuler cet appel. Si, en tant que groupe Gilets jaunes, il vous convient, envoyez votre signature à Commercy. N'hésitez pas à discuter et formuler des propositions pour les prochaines assemblées des assemblées que nous préparons d'ores et déjà.
Macron, démission ! Vive le pouvoir !
Voilà, c'était du coup l'appel des Gilets jaunes tout droit venu de Commercy qui est disponible sur le net. Si vous souhaitez le partager, si vous souhaitez le faire écouter à vos amis, à votre famille, il est là. Et est-ce qu'on se fait peut-être un petit point sur Commercy, à savoir qu'est-ce qui se passe dans ces assemblées, puisque du coup, il y a peut-être des gens qui ont déjà mis les pieds sur des ronds-points ou dans des assemblées populaires dans le Diwa ou autre part, mais cette assemblée était assez exceptionnelle.
Un petit clin d'œil aux ronds-points, aux Gilets jaunes de Cray aussi, qui ont profité des rencontres de l'écologie au quotidien pour venir partager avec le Diwa leurs réflexions à propos de l'écologie. Et on a été très content de voir mercredi arriver deux gilets jaunes sur le marché de Die qui disaient « Mais où sont les gilets jaunes ? Où sont les gilets jaunes ?» On a un texte à partager, du coup, qui sont venus partager mercredi après-midi. Donc, vous qui étiez peut-être aux rencontres de l'écologie, ben, vous avez pu avoir ce texte. Il est peut-être encore disponible là-bas parce qu'il a été... Il en restait quelques exemplaires quand même qui ont été... mis là-bas. Et puis, ben, il y en a encore des exemplaires à la radio aussi. Du coup, n'hésitez pas à venir dans le hall de la radio. Et c'est vrai que toutes ces alliances et ces fédérations commencent aussi au niveau local. Et puis alors là, hop, il y a eu cette assemblée des assemblées le week-end dernier, qui sera suivie d'autres, mais dont tu peux déjà nous faire une synthèse. Et il est 20h30, je pense, à peu près, 20h30. Sur RDY. On est ensemble jusqu'à 21h, okay. Donc on a le temps.
Ok. Alors, j'ai pas fait vraiment de synthèse. Il y a un grand compte-rendu qui tourne, dont on fera la synthèse et qu'on pourra présenter prochainement. Je vais pas tout vous lire ici. Peut-être plus être sur le ressenti et quelques infos concrètes. Effectivement, on était entre 300 et, en battant le plein, à 450, mais peut-être qu'on peut compter les journalistes là-dedans. Ça a foisonné de journalistes de tous bords. D'ailleurs, vous pourrez trouver sur le net
des articles des personnes, ou voire des vidéos des personnes, des journalistes qui étaient présents. Libération, il y avait Le Monde, il y avait,
bon,
il y avait
Mediapart.
Mediapart, il y avait des journaux locaux aussi avec des personnes de reporters. J'ai assez aimé le petit reportage de reporter. Il y avait Le Figaro qui a fait quelques interviews et qui est assez bon, je trouve. Figaro Live, vous pouvez trouver ça sur le net, la petite vidéo qui a été faite. Bref, et donc il y a un travail en amont qui avait été fait, qui avait été initié par Commercy, et un appel en fait à travailler en commun avec différentes localités avec lesquelles la communication était déjà établie. Nous, on est rentré en communication plus tard, donc on a découvert ce travail en arrivant. Donc il y avait des personnes, il y avait moi de Die, il y avait quelqu'un de Saillant et quelqu'un de Cré. Et on a découvert, de même que nous avons lancé le feuillet de revendication, donc les consultations auprès de la population de l'ensemble de la vallée du Diois, du côté de Commercy, ils ont fait remonter les informations de différents ronds-points, ils ont compilé tout ça, et donc là, je présente, mais vous ne le voyez pas, bien sûr, mais vous pouvez entendre les feuilles, 4 pages donc de revendications qui sont classifiées social, économie, gouvernance, justice, retraite, écologie, j'en passe et des meilleurs, qui sont donc plus complètes. Ce feuillet est plus complet que celui qu'on a lancé. Alors peut-être qu'on va retransformer le nôtre pour le réadapter, pour le recompiler. Et continuer, parce que ce travail donc qui est initié un peu de partout dans la France est un processus du coup participatif qui peut pas s'arrêter, qui est pas prêt de s'arrêter, quoi. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, je sais pas, mais voilà, demander l'avis des gens, en fait, donner la parole à l'ensemble de la population, déjà c'est pas un travail facile, ensuite compiler les données et refaire tourner ça, c'est un travail c'est un travail d'Hercule, comme on peut dire, mais c'est pour nous ce qui nous semble le plus démocratique, demander l'avis au peuple, faire remonter les informations, compiler, les faire redescendre, etc., 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 et comme ça on affine les données avec un pourcentage de participation qu'on souhaite le plus élevé possible, pour que ça soit le plus juste possible, vraiment avoir une visibilité sur l'avis et les revendications de l'ensemble des Diois. C'est pas question de gilets jaunes là, il est question de démocratie participative. Donc ça, c'est quelque chose qui est remonté à Commercy. Donc c'est, voilà, on continue là-dessus. Et il y avait différents axes aussi, et sur les points communs et remontées stratégiques des groupes et assemblées locales des Gilets jaunes. Donc ça aussi, c'est un travail qui est initié et qui va continuer, c'est-à-dire comment on s'organise, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les buts à atteindre. Donc il y a des réflexions qui se mènent, il y a des actions qui s'organisent. Et ce pourquoi moi j'ai envie de participer et de continuer à ces AG, que ce soit local, j'espère continuer à participer aux AG locales, même en voyageant à droite à gauche, les AG départementales, régionales et nationales, c'est qu'on crée du lien. Je récupère des numéros de téléphone, enfin j'échange des numéros de téléphone, les adresses mail et les comptes Facebook, parce qu'on est encore sur Facebook. Comme j'ai tendance à le dire, il faudra bien qu'on se débarrasse à un moment donné de ces outils-là, qu'on en trouve d'autres. Mais pour l'instant, c'est vraiment le meilleur moyen de créer du lien, d'échanger des informations et potentiellement de s'organiser aussi collectivement, quoi. Donc je commence à avoir tout un carnet d'adresses avec les villes de France, avec les représentants et les observateurs d'un petit peu partout. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire, parce qu'il y a aussi plein de chaînes de chaînes de mails qui tournent. Donc il y a d'autres personnes qui s'occupent très concrètement de ça aussi. Mais voilà, moi mon envie, c'est de alors comme je joue le clown aussi et que je suis assez visible, c'est de d'être un personnage qui peut être vu et se faire voir un petit peu partout pour créer du lien, quoi. Les gens sont assez contents de voir un clown débarquer. Bref, à part ça, des assemblées. Donc ça, c'est, je vous fais la présentation, c'était un peu le premier soir, on est arrivé au soir, et le lendemain, ça a été un travail, du coup, de présentation de chacune des personnes. Ça a pris quelques heures, déjà. Parce qu'il y avait, donc, ouais, plus de 70, on va dire, ronds-points et ou villes représentées de toute la France. On peut trouver aussi les cartes sur lesquelles tout le monde s'est inscrit. On a pu coller des petites punaises pour montrer et représenter un petit peu d'où on venait. Et ça vient de partout, quoi. Et donc des assemblées aussi qui discutaient des axes à transmettre. Alors pour vous la faire courte, évidemment ça a été très riche, très intense, autant en discussion qu'en émotion. Pour autant, c'est resté globalement pacifique, j'ai envie de dire. On réussissait à construire avec nos désaccords. De toute façon, on était conscient que c'était le but, qu'on pouvait pas décider de grand chose puisque c'était une première approche. Néanmoins, ce sont déjà décidées certaines choses que je vais peut-être pas développé ici, mais notamment, comme vous avez pu l'entendre à l'instant, cet appel général à la grève générale et une prochaine réunion, donc une assemblée des assemblées des Gilets jaunes qui s'organisera normalement, si je dis pas de bêtises, on n'a pas donné de date précise encore, mais c'est dans 2 mois. Dans 2 mois, normalement, c'est Saint-Nazaire qui s'en occupe. Donc Saint-Nazaire, si je ne m'abuse, c'est proche de la Bretagne, si ce n'est en Bretagne. Et où Montreuil, s'ils arrivent à s'organiser en moins d'un mois. Alors ça, on aura plus d'infos et on pourra transmettre. Donc on continue aussi cette convergence, cette coordination au niveau national. Et c'est pas triste.
Et du coup, sur le DIWAC, est-ce que vous vous êtes vu pour faire un peu redescendre un peu les informations? Est-ce qu'il y a des angles qui ont été pris, des actions qui ont été posées, justement, puisque c'est intéressant dans ce que tu dis. Moi, j'entends, c'est pas forcément les gilets jaunes, c'est plus large que ça. C'est de l'idée, effectivement, de proposer aux personnes qui sont pas encore descendues dans la rue ou qui ont pas encore enfilé un gilet jaune ou qui ont pas envie d'enfiler un gilet jaune, mais qui n'ont pas non plus envie d'enfiler un foulard rouge, de venir discuter et de trouver cette opportunité de tendre la main, de réfléchir ensemble, d'agir ensemble. Et du coup, c'est quoi? Parce que sur le DIWA, concrètement, est-ce que le groupe, ça permet au groupe en lui-même de s'élargir? Et s'il y a d'autres personnes qui viennent, est-ce qu'il y a des nouvelles têtes qui viennent apporter de nouveaux débats? Est-ce que c'est ce genre d'assemblée, ça permet aussi de se questionner sur son propre fonctionnement sur le territoire?
C'est ça. On échange au niveau. On a bien vu que là aussi, quand même, comme il y a eu des discussions sur les revendications, que c'était pas, on n'a pas les mêmes priorités en fonction des différentes localités, ne serait-ce que milieu urbain, milieu rural, c'est différent selon les endroits, et donc on doit composer avec ça. Mais tu dis, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais est-ce que tu voulais me demander si ça se bouge plus au niveau local du fait d'avoir des assemblées nationales?
L'impact que ça peut avoir sur les territoires, parce que j'imagine qu'il y a des échanges qui sont aussi des échanges de pratiques, des échanges de témoignages. Juste en échange de témoignages, j'imagine que ça doit du coup donner du grain à moudre et de la réflexion pour ramener ça sur son propre territoire. On sait déjà qu'il y a moins de ronds-points qu'il y en avait il y a 4 semaines ou 5 semaines. Il y a beaucoup de cabanes qui se sont faites démonter. Il y a beaucoup d'appels à remonter des cabanes. Mais on sait très bien qu'entre le rond-point de Die, le rond-point de Cray, le rond-point feu, le rond-point de L'Oriole et les ronds-points plus ou moins occupés de Valence Nord et de Valence Sud, c'est pas du tout les mêmes fonctionnements. Alors si on élargit encore plus à Montélimar Sud, Montélimar Nord, j'imagine qu'à Commercy, le rond-point, s'il existe encore, doit pas du tout fonctionner de la même manière. C'est quoi en fait concrètement, est-ce qu'il y a des échanges de pratiques qui font, est-ce que ça donne des idées? Peut-être vous n'en avez pas encore parlé entre groupes de Gilets jaunes et vous pourrez nous revenir la semaine prochaine pour nous faire un petit point.
Et oui, je vais bien répondre à tout ça. Je vais essayer de bien répondre à tout ça. Déjà pour dire qu'effectivement, il y a aussi un appel à reconstruire la cabane, les cabanes dans la France entière le 5 février, jour de la grève générale, notamment. On est tombé là-dessus globalement. Donc après, j'espère que les ronds-points suivront un petit peu tout ça. Il y a eu des échanges effectivement. Donc de pratiques, des témoignages par rapport à ce qui a été vécu de ci de là, et qui permet aussi parfois de revoir soit son jugement, soit son comportement là aussi par rapport à notre propre localité. Pour vous dire, moi j'ai quand même envie de témoigner de ça, c'est-à-dire que j'ai été mandaté la semaine avant le 26-27, donc le week-end avant l'AG de Commercy. J'ai été mandaté dans les règles de l'art, on va dire, par l'assemblée du rond-point de Die. Et donc j'étais mandaté à l'AG de la Drôme. Et en même temps que j'y étais, il y a cette histoire d'agression et de cramage de cabane. Donc la semaine suivante, non seulement j'ai pas vraiment eu le temps de faire redescendre les informations de cet AG de la Drôme, ou à peine, en fait, transmettre quelques infos qui ont pu circuler par mail, mais très peu au rond-point. Et puis j'ai dû aussi témoigner et puis soutenir un petit peu les copains dans cette affaire d'agression et d'incendie. Et par la suite, je me suis retrouvé à Commercy sans avoir pu être à l'AG suivante, l'AG de vendredi dernier, du coup, du rond-point d'Audi. Donc, en fait, là, depuis un peu plus d'une semaine, je plane complètement et j'ai pas eu le temps de reconnecter avec le rond-point. Quand je suis retourné au rond-point, j'ai pas trouvé les copains, les copines, notamment parce qu'il a neigé et que sans doute que les gens s'organisent autrement. Donc, je suis un peu embarrassé parce que j'ai plein d'infos à transmettre par rapport que ce soit à la Drôme ce qui s'est passé à Commercy, donc au niveau national. Et là, effectivement, les choses vont vite. Et c'est comme ça, ça demande à ce qu'on s'adapte là aussi, parce que les choses s'organisent autrement. Il y a du lien qui se construit avec le SCDD, donc il y a des réunions qui se font par ce biais-là. Il y a cette histoire aussi qui a une certaine ampleur, même si c'est en parallèle des gilets jaunes d'écologie au quotidien, qui prend de l'énergie là dans le DIWA, donc, et qui en transmet de l'énergie, bien sûr. Et donc, il y a foultitude de choses et... je pense que je ne suis pas le seul à nager, mais pour l'instant, j'ai du mal à rejoindre les deux bouts. Et c'est effectivement ça la difficulté. On ne souhaite pas monter des usines à gaz en fait, en se coordonnant ou coordonnant au niveau national. On voit que c'est pas forcément pertinent de chercher à faire tous ensemble, hein, bien sûr, hein, mais au moins de pouvoir connecter, de tisser le réseau. Et pour autant, là, ouais, voilà, en ne serait-ce qu'une semaine, moi, Gérard va être complètement déconnecté, on va dire, de mon rond-point et de pas réussir à avoir assez d'échanges d'infos. Parce que là aussi, au niveau local, on n'est pas tellement structuré. Et quand bien même il y a des personnes très investies, ben elles sont investies aussi à droite à gauche, quoi.
Moi, je trouve d'avoir la structure, d'avoir une AG par semaine le vendredi soir, c'est une excellente structure qui fait qu'on peut pas aller plus vite que d'être vendredi soir à 18h. Donc que effectivement l'AG du rond-point de Die qui suit le dimanche, nous là tu nous fais un peu une avant-première quelque part en venant en parler à la radio, ce qui je suppose que bah oui tu dis il y a des trucs qui tournent par mail et tout ça, mais par rapport à la structure qui est en place de cette d'avoir moi je pense la structure la plus démocratique possible, d'avoir des AG régulières,
oui,
à laquelle on sait que c'est sur notre agenda et qu'on ira vendredi soir, demain soir donc à 18h, et que là eh bien on aura toutes les informations qu'on peut pas tout dire à la radio, que notre temps est limité. Puis c'est pas non plus le lieu de la transmission de tout ça, là tu nous fais vraiment le plaisir et l'honneur de venir nous faire un témoignage encore un petit peu à chaud, mais qu'on a cette super structure d'AG hebdomadaire qui est en place, et que c'est bien mieux que tous les internets et toutes les soi-disant immédiatetés que les promoteurs d'internet essayent de nous vendre. Et comme tu dis, à un moment il faudra bien s'en débarrasser. Et les choses qu'on met en place, qui sont là, de la rencontre réelle, des rendez-vous réguliers, sont des choses qui faisaient que tous ceux qui luttaient avant internet faisaient comme ça, hein. Il y avait des assemblées générales, du courrier qui circulait, et puis voilà quoi.
Et puis ça me semble super important, pardon, je termine juste sur ça. C'est primordial en fait que ces assemblées se continuent à se tenir très régulièrement et que les décisions qui y sont prises avec les présents. Alors après, il y a toujours des personnes un peu nouvelles peut-être qui s'investissent plus ou moins, mais ouais, ça c'est vraiment le centre, c'est le cœur qui doit rester et d'où tout doit partir, quoi.
Je peux témoigner justement sur la dernière assemblée, puisque j'y étais pendant que tu n'y étais pas, et je veux dire, j'ai simplement participé, et j'invite vraiment tout le monde à y venir, parce que c'est un très beau moment. Un très beau moment où il y a différentes personnes qui parlent, on s'aperçoit qu'il y a une structure informelle qui est là, mais il n'y a pas forcément des gens qui sont en charge, c'est tout le monde qui s'exprime, et qui s'exprime de manière différente. Et le message le plus important que je voudrais dire, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance et de sortir des peurs, retrouver la joie, parce que on est en train de quitter un système et ça, personne ne peut l'arrêter. On est en train de quitter le système capitaliste et on ne sait pas où on va. Donc, immédiatement, tout ce qui s'installe, c'est les peurs. Ceux qui veulent frapper et qui veulent tout tuer parce qu'ils ne veulent absolument pas que le système change, et ceux qui sont prêts à tuer absolument l'ancien système parce qu'ils veulent que ça change très vite, mais on ne sait pas où on va. La seule chose qu'on sait, c'est que ça sera mieux. C'est mieux. Et ça sera plus humain. Donc, on y est. Donc, ce qui est bien dans ce qui se passe dans ces AG et d'une manière générale dans le rond-point, c'est que les gens réapprennent à communiquer et s'aperçoivent que c'est une joie de communiquer. C'est comme ça qu'on apprend à se découvrir, à découvrir l'autre et à grandir. On ne peut pas grandir autrement. Donc, c'est ça. Donc, c'est retrouver cette joie, sortir des peurs. C'est ça qui est important.
Oui, on peut aussi aller directement dans la joie. Enfin, moi, je trouve, et d'autres, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui ne vivent pas cette peur, mais qui vivent une exaltation. Mm-hmm. Et qui disent, mais c'est super ce qui se passe. On n'est pas obligé de passer par la peur. Mais en tout cas, si elle arrive, on a intérêt à la reconnaître pour passer directement à l'exaltation, qui est une sorte de grande joie, quoi, je dirais.
Si j'en parle, c'est simplement pour dire que ceux qui ont le pouvoir en place, le pouvoir uniquement de l'argent et le pouvoir de la notoriété, le pouvoir des médias, mais ils n'ont qu'un pouvoir sur nous, ils n'ont qu'un pouvoir sur les autres. C'est un pouvoir illusoire qu'ils ont sur les autres. Ils n'ont pas de pouvoir. Mais ceux qui le croient, ils sont dans une peur de perdre ça. Et c'est eux qui n'arrivent pas à s'ouvrir à communiquer. Et puis, il y a des gens ici, des mères de famille, seules, qui élèvent des enfants, qui disent « Attends, avec tout ce qui se passe, je ne peux pas prendre le risque d'aller sur le point, de me faire embarquer et de recevoir des coups ou quelque chose comme ça. » Donc, il y a quand même des peurs qui empêchent les gens de venir, de communiquer. Il faut bien, je rappelle encore, le rond-point, c'est qu'un symbole, c'est qu'une étape. Le plus important, c'est de communiquer dans la rue, communiquer entre nous et communiquer en dehors du GAFAM, en dehors des médias classiques et de manière informelle. C'est ça qui va changer.
Je vous annonce juste qu'il est 20h43 pour les auditeurs, qu'il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure 45, qu'il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure d'antenne, que peut-être je sais pas si on embraye sur un autre sujet, si on continue là-dessus. En tout cas, c'est sûr qu'on invite les gens à venir aux assemblées générales hebdomadaires tous les vendredis à 18h au rond-point de Dine. Ne vous inquiétez pas, il fait chaud, il y a un bras zéro, enfin il fait chaud, ça dépend de dans quelle partie du cercle vous êtes. Munissez-vous un peu de gants et de grosses chaussures quand il neige. Il y a une belle cabane en plus qui a été reconstruite après l'incendie du 18. Donc voilà, c'est déjà l'invitation qu'on peut faire. Rappelez l'invitation de Valence samedi pour rallier donc du coup toutes les personnes, cette fois-ci non pas des départements adjacents mais de la région entière, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y aura des gens de Lyon, de Saint-Étienne, de Grenoble, des gens de partout. Il y a à peu près entre 6 et 10 000 personnes qui sont attendues. N'ayons pas peur de descendre dans la rue.
Grand carnaval.
Carnaval, couleur, de toute façon, sûr, le mot d'ordre, c'est de rester groupé et de faire attention à ce qui se passe à côté de nous, parce que, effectivement, ce qui se passe en ce moment avec les plus de 10 000 tirs de LBD qu'il y a eu depuis le 17 novembre, on n'est pas à l'abri, malheureusement, de se prendre du gaz lacrymogène. Donc, si on est asthmatique, c'est pas terrible. Je dirais pas jusqu'à se crever un œil. J'espère qu'à Valence, le bilan ne sera pas aussi morbide que dans les grandes villes, puisque voilà, on est à Valence, et je pense que le préfet là a vraiment très très peur, et c'est ce qu'il transmet par le biais des médias mainstream tels le Dauphiné Libéré ou d'autres, hein, ou France Bleu également. Et donc voilà, faut quand même pas hésiter à descendre dans la rue, à venir chanter à venir scander des slogans.
Mais tu avais un dernier son à nous passer ou bien ?
Moi j'ai plein de trucs à dire encore, je voulais savoir si on avançait encore sur cette histoire de rassemblement, de joie. Je pense que la joie, en fait, on la trouve, la radio c'est trop cool d'en parler, mais qu'on la trouve en étant ensemble, en étant dans la rue. Moi je posais des questions assez concrètes sur, en fait c'est super les ronds-points, des fois je me questionne en me disant est-ce que je mets mon gilet jaune dans la rue ou pas. À 10, c'est vrai qu'il y a quand même des bulles de personnes, et j'ai l'impression que c'est justement sur nos territoires, en allant au magasin du coin. Voilà, moi la semaine dernière j'ai fait quoi, je suis allée voir la librairie parce que j'étais hyper étonnée de l'article qui était sur la devanture, qui est un article du Canard Enchaîné qui, ma foi, est intéressant puisqu'on parle de la mort des librairies depuis je sais pas combien d'années, et qu'effectivement malheureusement il y a énormément de foyers dans lesquels on rentre, dans lesquels il n'y a pas de livres, et effectivement je vois cet article des gilets jaunes dimanche dernier sur la devanture fermée de la librairie, puis j'étais un peu triste parce que c'est les gilets jaunes en gros ont favorisé le commerce d'Amazon.
puisque comme il y a eu des blocages, les gens sont allés acheter leurs cadeaux de Noël sur internet, et donc du coup les gilets jaunes favorisent le commerce d'Amazon. Puis je suis allée voir le libraire en lui disant excusez-moi, mais en fait ça me dérange un petit peu parce que c'est une vision hyper qui va que dans un sens, parce que est-ce que vous êtes au courant par exemple que les gilets jaunes de Montélimar et de la région ont bloqué le dépôt d'Amazon de Montélimar, qui est un des plus gros dépôts en France, qui est un des, c'est le deuxième dépôt qui a été monté en, qui a été construit en, je sais plus, en 2003 ou en 2008, mais quand même il y a des gens qui sont hyper conscients de ça. Donc si vous mettez cet article, peut-être vous pouvez en mettre un autre à côté. Bon, je lui ai dit que je lui en amènerais, je l'ai toujours pas fait, mais voilà, j'ai l'impression que c'est aussi dans des petites discussions du quotidien avec l'épicier, avec la voisine, avec et qu'à la radio c'est trop bien, mais que on, voilà. On
c'est a... ça, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment d'avoir le courage de changer son comportement personnel. Mmh. C'est-à-dire si on décide réellement, parce que c'est plus facile de commander sur Amazon, mais de, justement de passer les quelques 10 minutes ou un quart d'heure de plus que l'on va devoir passer pour ne pas passer par Amazon. Et surtout de respecter le libraire du coin, je veux dire le cordonnier du coin, et ainsi de suite. Si on décide de le faire, c'est ça qui est le vrai changement. C'est pas autre chose. Hein.
Et effectivement, et du coup, c'est un peu l'objet de cette grève générale qui commence mardi 5 février, avec aussi l'appel de dire consommer local, consommons local. Après, c'est vrai que moi, je me suis questionnée, par exemple, sur quelque chose qui est que notre Super U. Je parle du Super U parce que c'est le gros supermarché du centre-ville. Il embauche plein de gens, il y a une super ambiance là-bas, on sent que les salariés, on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que les salariés sont hyper bien dans leur travail. Je dis ça parce qu'il y a eu énormément d'offres d'emploi. Pour moi qui regarde régulièrement les offres d'emploi, je pense que aussi, quel rayonnement en fait on met dans notre quotidien. Et je me pose vraiment la question de qu'est-ce que ça va être cette grève générale à Die, qui est un petit village de 4700 habitants en fond de vallée. Il y a pas de grosses industries et tout. Et j'ai cette sensation, c'est pour ça que je te posais la question de tout à l'heure d'action concrète, parce que j'ai l'impression que c'est le sens qu'il est aussi dans ce qu'on y met en local, même si bah effectivement se regrouper, se réunir, aller rencontrer d'autres personnes, se faire un carnet d'adresses, avoir un téléphone rempli de numéros, c'est extraordinaire pour la suite, mais en fait on se rend compte que ça c'est du virtuel. Ouais. Et dans le concret, je me pose vraiment la question moi-même, puisque j'ai réservé mon mardi 5, mon mercredi 6, je les ai vraiment réservés à cette grève, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais réussir à descendre dans la rue et puis à rester à Die en allant voir un à un tous les petits commerces pour discuter avec eux, parce que je peux comprendre en fait qu'il y ait des petits commerçants qui en cette période absolument pas touristique ont quand même besoin de faire leur beurre du jour et en fait voilà, même s'il y a des commerçants qui perdent de l'argent et qui soutiennent les gilets jaunes en disant merci, franchement bravo parce que vous avez du courage et nous on l'aurait pas, alors oui notre chiffre d'affaires a baissé. Ou est-ce que personnellement je vais à Valence devant les usines alors que j'ai jamais été syndiqué de ma vie, alors que j'ai jamais travaillé dans une usine, c'est très questionnant et je me demande en fait c'est quoi nos actions concrètes, mis à part d'aller manifester, ouais, de mettre un gilet jaune et de construire une cabane sur un rond-point.
De se retrouver quoi, de profiter de ces jours-là pour se retrouver dans la rue.
Avant tout ça, effectivement à toutes échelles, que ce soit dans les rues, les ronds-points ou les assemblées, se retrouver, discuter. Donc c'est être ensemble, comme je le rappelle, et il y a aussi le faire ensemble, et je comprends ce questionnement. Par rapport à la grève, c'est pas forcément développé, mais il faut effectivement se questionner par rapport à notre position, comme on le disait tout à l'heure, se placer dans ce monde, quelle va être notre position. Et effectivement, les personnes qui sont artisans, notamment les artisans locaux, ils vont pas faire la grève du travail, c'est des artisans quoi, c'est leur job de leurs mains. En revanche, les personnes dans les bureaux, les salariés de grandes entreprises et tout ça, bah ça peut avoir un impact. Et de même au niveau de la grève de la consommation, il est pas demandé, si on a une alimentation naturelle et saine en achetant auprès des producteurs locaux, de faire la grève de la consommation. Au contraire, continuez d'acheter à vos producteurs locaux, d'acheter dans les AMAP ou les trucs comme ça. Enfin, c'est je pense que la question, voilà, alors après si vous voulez aussi boycotter votre AMAP, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est une question de fond, c'est-à-dire on revoit notre consommation, on revoit notre manière de consommer, et on reprend notre pouvoir du coup par notre manière de consommer et de manifester. Tu avais quelques questions sur les actions, il y en a quelques-unes qui me sont tombées du ciel, donc je pense que je vais pouvoir te lire. C'est des propositions qui tournent un petit peu partout. Évidemment, donc, ce qui est écrit, c'est que de très nombreuses pistes sont évoquées pour maintenir le rapport de force. Certaines reviennent très souvent, notamment la grève générale, les blocages ciblés et stratégiques, et sans doute coordonnés, transport, dépôts pétroliers, services publics, grandes surfaces, maintenir une réelle visibilité par des journées d'action à grande échelle, soit les métropoles régionales, soit des journées nationales, mais à quel rythme ? Ça, c'est une question qui se pose aussi. Le boycott de certains produits et de certaines entreprises, là encore, ce sont les grandes entreprises, ce sont les grandes surfaces qui sont ciblées. Multiplier les lieux pour se retrouver, occupation, réappropriation des espaces communaux, création de nouveaux lieux, construction ou ouverture de maisons du peuple sur des terrains privés, etc. Là aussi, oui, se réinvestir l'espace public, je crois que c'est quelque chose qui a déjà sonné plusieurs fois dans le Diwa notamment, en tout cas moi que j'ai entendu sonner. Moi, j'ai été surpris de voir que la maison du peuple, on va dire, de Commercy, la cabane de Commercy était genre devant la mairie, devant la préfecture, quoi, sur le centre à la fois historique et politique et économique. Enfin, là-bas, c'est comme ça, un petit village, un petit peu comme nous, si on était sur la place de la cathédrale, quoi. Si on posait une cabane là, ça serait aussi une autre image, une autre ampleur, quoi. Voilà, pour quelques actions qui ont pu être évoquées.
C'est pas un scoop, hein.
C'est pas un scoop. Là, tout ce que j'ai lu, c'est des choses qui tournent.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le projet de mettre une cabane.
Ah non, c'est pas un scoop. Nous, on n'a pas pour projet.
Pourquoi pas ?
Après, voilà, ça se réfléchit. Il y a aussi l'histoire d'ouvrir des maisons du peuple. Donc là, je me fais le relais de Saint-Nazaire, donc qui a passé une vidéo dans laquelle aussi j'ai participé et qui est toute récente pour l'appel à l'ouverture de maisons du peuple, car c'est aussi par l'investissement des logements, notamment des logements vides, qu'on peut s'organiser, faire entendre nos voix et se retrouver. C'est une idée qui tourne. Voilà.
Mais le plus important, ça reste la communication. C'est clair, quand on dit grève générale, oui, mais c'est quand même une grève qui est consciente. C'est-à-dire qu'on veut vraiment changer de comportement. Et tout le monde a besoin d'aide. C'est vrai qu'il y a des commerçants qui ont acheté des choses qui ne seront plus vendues dans les années à venir parce qu'on change de comportement. Elle va plus vers l'essentiel. Il y a des choses qu'on n'achètera plus et des choses qu'on achètera, c'est tout. Mais il y a un tas de choses qui sont très importantes qu'on oublie, c'est de reprendre conscience des vrais problèmes de la vie. Je veux dire, les frelons asiatiques, pour ici, on n'en parle pas assez, c'est un problème énorme. C'est un détail, mais c'est un problème qui n'est pas un détail. Si on sait pas ça que d'un seul coup, il va y avoir des centaines de ruches qui vont être complètement bouffées à partir du printemps ou cet été. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc on peut pas. Il faut vraiment s'arrêter. C'est un non-sens, toutes ces guerres, financer le Tchad, financer le Venezuela uniquement pour vendre des armes, mais ça tient pas debout. Alors bien sûr, tous ceux qui sont dans un système économique, ils vont dire, non mais attends, économiquement, c'est rentable. Mmh. C'est ce qui rapporte le plus. Comment est-ce qu'on va payer nos retraites si on ne vend pas des armes ? Bon, ben, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui pensent comme ça. Et c'est ça qui est en train de changer.
Digression sans transition, aller des motifs d'aller dans la rue et de faire la grève. Il paraît que le Nutella va augmenter. Ouais, le Nutella, les Chocapic, le Ricard, voilà. Donc c'était aussi sur l'augmentation, puisqu'on est dessus. Effectivement, ouais, normalement, au 1er février, il y a 6,3% d'augmentation de certains produits dans les supermarchés. Voilà, donc ça, c'est juste avant la fin. Juste avant de. Oui, ça va impacter à peu près 1000 produits sur la globalité du commerce, donc plutôt de consommation. Voilà, moi, j'ai devant moi ces exemples-là du Nutella, du Ricard, des Chocapic, de la boîte de casse-grains haricots, petits pois. Carottes, donc le prétexte c'est de favoriser les petits agriculteurs pour revenir à la source. En fait, c'est le contraire. C'est une loi sur l'alimentation qui est une belle aubaine pour l'agro-industrie. Et du coup, en gros, il y a le passage de la loi alimentation. Elle s'appelle loi alimentation au 1er février 2019. Donc c'est demain. Si vous n'avez pas fait vos courses aujourd'hui et que vous voulez manger du Nutella, c'est trop tard. Voilà, vous allez forcément avoir à peu près 50 centimes de plus sur votre Nutella. Elle a été élaborée suite aux états généraux de l'alimentation votés le 30 octobre dernier. Et donc voilà, cet objectif affiché, permettre aux producteurs de, je cite, vivre de leur travail. Dans un contexte de crise de rentabilité, des petites exploitations acculées par l'endettement et le risque de faillite et menacées de rachat par les grandes exploitations agricoles. Voilà, donc c'est dans l'idée de restituer les marges des agriculteurs, les autorités qui ont décidé de mettre un terme à la guerre des prix. Donc ça, c'est la deuxième volet de la loi alimentation. Donc en gros, c'est pour que les enseignes de grande distribution arrêtent d'imposer, enfin, qu'il y a un prix de vente imposé
proposer en rayon qui ne pourra être inférieur à 10% du prix coûtant. Donc effectivement, les gens qui vont chercher les grosses promos chez Lidl ou Aldi, donc les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans le magasin bio du coin, c'est plutôt sur eux que ça va retomber. Ça va être un petit peu difficile. Et puis cette loi, elle interdit aussi aux grandes enseignes de pratiquer des promotions sur 75% de leur volume de production. Donc effectivement, on revient sur le ticket du consommateur qui va être complètement écrasé. On n'a peut-être pas le choix d'aller bouffer du Nutella, d'accord, mais peut-être d'autres choses dans les supermarchés. Donc voilà, c'est les consommateurs qui vont payer. Sachant que on peut donner comme exemple que le groupe Carrefour, par exemple, a généré plus de 7 milliards de bénéfices entre 2009 et 2017. Donc par contre, la grande distribution et les grandes enseignes, je sais pas trop comment ça va les impacter. Je disais ça parce que ça va avec une autre augmentation qui va rentrer en cause, et je me dépêche parce qu'on a plus longtemps. Et on n'a plus de quoi écouter. Du coup, je vous dis, allez regarder la vidéo de la grève générale sur les gilets jaunes du Diwa, parce que je vais rendre l'antenne et vous remercier. Je ne vais pas terminer ce que j'avais à dire, juste à vous dire, vérifiez vos factures d'électricité, bientôt ça va augmenter aussi. Aïe, 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 ça fait mal.
Rejoignez-nous, les gilets jaunes.
Bisous. Merci à vous, à toutes et à tous. À la semaine prochaine, Feu de tout bois, 19h30, 21h sur les ondes du 107.5. Vous êtes les bienvenus.
19h20.
Oui, 19h20. Et bonne semaine et puis bonne manif.
Merci.
Ça s'est passé à une vitesse.